Et je vais donc demander à notre pasteur de venir, je vais prier pour lui et demander la bénédiction de Dieu sur lui comme sur nous. Seigneur, c'est un privilège d'avoir Laurent, nous reconnaissons son ministère, nous sommes extrêmement reconnaissants de nous l'avoir prêté à Honnay et nous te demandons que les paroles qu'il va partager de ta part puissent couler et que un vent frais puisse venir dans nos vies. Seigneur, ouvre notre cœur et notre intelligence pour que nous puissions entendre ta voix et ensuite pouvoir la mettre en pratique. C'est dans le beau nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.
Merci Christian. Bonsoir à chacun, chacune. Ah, c'est rien, c'est mon téléphone. Il est solide dans l'expérience. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Vous avez remarqué comme moi que depuis ceux qui viennent régulièrement depuis quelques dimanches, on est dans cette thématique du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple et comment marcher à la suite de Jésus? Et ce soir, on va voir une nouvelle étape. Donc si jamais les messages, en tout cas une partie, sont en ligne, si vous voulez vous référer au message précédent, dans les plus belles promesses que Jésus a dites, il y en a une qui se trouve au chapitre 5 de l'évangile de Jean, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Elle est toute simple, cette promesse, mais elle est tellement puissante. Celui qui croit, donc Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que nous écoutons la parole de Jésus? Est-ce que nous croyons à celui qui l'a envoyé, le Père Céleste, que c'est vraiment Jésus qui a été envoyé? Et puis, si c'est bien ça, alors on reçoit, on a la vie éternelle avec Dieu. On n'est pas dans l'attente d'un jugement, de la crainte, de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que vraiment ou pas, voilà, comment ça va se passer? Et Jésus continue en disant, il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'il y a devant nous si nous croyons en Jésus? Il n'y a pas un tribunal qui va nous juger. On sera estimé dans les œuvres qu'on aura faites en tant que croyant. Est-ce qu'on aura bien fait les œuvres de Dieu ou pas? C'est ça la question. Et de ça dépendra, on va dire, des récompenses dans le ciel. Mais si tu crois en Jésus, si tu crois que le Père Céleste a envoyé Jésus, alors tu as, c'est au présent, la vie éternelle. Parole de Jésus lui-même. Le reste, c'est un peu du blabla. On est d'accord avec ça. Hein, voilà. Puisse-t-il y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui croient en Jésus, qui écoutent la parole du Seigneur et qui croient qu'il a été envoyé. Et puis nous, on se réjouit, quoi. Il y a les noces de l'agneau, il y a un festin qui nous attend là à venir, alors que nous croyons en lui et sa grâce sera manifestée. Merci au Seigneur. Je voulais dire ça en introduction. Ce soir, mon thème, c'est le disciple, la vie de disciple. Et si on regarde à notre maître, à Jésus lui-même, bien dans les Écritures, puis on va regarder ça un peu ensemble ce soir. On voit que Jésus, c'est un faiseur de miracles. Ce n'est pas un illusionniste, ce n'est pas un magicien qui essaye de faire croire. Il n'a pas des pouvoirs comme un occulte, un enchanteur ou quoi que ce soit, mais il est un canal de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors je me suis un peu amusé à compter, puis après on verra un texte qui se trouve dans Luc chapitre 8. Concernant les miracles de Jésus, il y en a 104 qui sont mentionnés, 104, et certains sont répétés. Donc il y a Jésus, il a à peu près servi pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, et dans les évangiles et un peu dans les actes aussi, c'est marqué, il y a 104 miracles qui sont là. Et dans nos têtes peut-être, en tout cas moi c'est parfois dans la mienne c'est comme ça, en fait j'entends par miracle, quand on parle que Jésus qui fait des miracles, c'est des miracles instantanés, des miracles, du style quelqu'un qui est paralysé, il va tout de suite se lever, marcher, courir. Il y en a comme ça dans les Écritures. Mais le mot miracle, dans les évangiles et un petit peu dans les actes, c'est l'intervention puissante de Dieu. Voilà, je pense que le porte-monnaie de Anne, le porte-carte de Anne qui a été trouvé, pour moi, c'est un peu le domaine du miracle. Voilà, c'était peu probable que naturellement, quelqu'un trouve ça et le ramène, le trouve peut-être, le ramène, c'est encore autre chose. Surtout s'il y a une carte de crédit qu'on peut utiliser, même sans code, hein, aujourd'hui c'est facile, quoi. Donc voilà, pour moi c'est du domaine du miracle. Maintenant, Jésus ne parle pas de carte de crédit dans les Écritures, par contre, il y a une fois un miracle où il y a de l'argent qui est trouvé dans un poisson, et cet argent, il sert à payer l'impôt pour deux personnes, l'impôt du temple. À l'époque, il y avait un impôt prélevé par le temple. Ça, c'est aussi du miracle. Comment un poisson peut avoir dans sa bouche de l'argent? C'est assez fou, hein, quand même, un poisson. Comment il peut manger de l'argent? Non. Et voilà. Et c'est Pierre qui va pêcher le poisson, qui est pêcheur professionnel. Voilà. Et ça doit être son premier poisson, j'imagine, où il y a de l'argent dedans, qu'il trouve, je pense. Voilà, en tout cas, voilà. Donc 104 miracles, dont 48 guérisons. 48 guérisons. Par exemple, Pierre a une belle-mère et Jésus va guérir cette belle-mère à la maison. Il n'y a pas la foule, juste Pierre, quelques personnes qui sont là à la maison. Elle est alitée. Jésus, il menace la fièvre. Il leur donne de partir et cette personne de la famille de Pierre se lève. Voilà, puis elle est tellement contente qu'elle va servir Jésus tout de suite. Donc ça montre qu'elle est vraiment en forme. Voilà. Elle était, je ne sais pas si j'ose tirer le texte, mais peut-être qu'elle avait un Covid long, intense, avec tous les symptômes à 100%, c'était limite. Et puis Jésus vient et il la guérit. Ça, c'est moi qui dis. C'est, évidemment, ce n'est pas dans l'Évangile. Cette guérison, c'est dans Matthieu 8. Guérison de cette belle-mère. Il y a donc 48 guérisons sont mentionnées. En deuxième, il y a 19 délivrances. 19 délivrances qui sont mentionnées, pour ceux qui aiment les statistiques. Ensuite, catégorie suivante, donc les délivrances, c'est-à-dire c'est quand il y a un esprit ou plusieurs qui sont chassés d'une personne, qui tourmentent, même des gens qui ont la foi, qui sont pleins de foi, voilà, la fille, la femme, jeune femme, qui était fille d'Abraham, qui était tourmentée par un esprit, Jésus la délivre. Voilà, les délivrances, donc le diable ne tient pas devant la puissance de Jésus. Aucun esprit mauvais ne résiste, en tout cas pas longtemps. Ils essayent, mais pas longtemps, certains. Certains même confessent que Jésus, certains démons, ils parlent, et ils confessent que Jésus est venu pour les perdre. Nous savons qui tu es venu pour nous perdre. Ah bah oui, c'est juste, pour une fois qu'il ne dit pas un mensonge. D'habitude, les démons mentent, mais là, eh ben, ils sont dans la crainte. C'est eux qui ont la crainte devant Jésus. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je ferme la parenthèse. Ensuite, les miracles. Il y a 17 miracles mentionnés sur la nature. Les événements naturels. Ben, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Il connaît les lois de l'univers. Mais au-delà des lois de l'univers, elles lui sont soumises. Pour ça qu'il peut dire à une tempête, tais-toi, silence, tais-toi. Et la tempête obéit. La tempête obéit. Trop fort ce miracle, hein. Voilà, ça c'est vraiment la puissance de notre Sauveur et de notre Seigneur. Voilà, je pense un des miracles les plus probants sur la nature, c'est celui-là, dans le temple. Autre catégorie, il y a 8 miracles qui sont mentionnés de provision. Et peut-être vous pensez à la multiplication des pains. Une fois, il nourrit 5 000, une fois, je crois que c'est 4 000. Voilà, personnes qui sont là, donc ce n'était pas prévu que ces personnes restent. Et à partir de quelques aliments, il les multiplie. J'ai entendu un pasteur qui parlait qu'ils ont vécu une multiplication d'un rôti, un rôti de viande. Ça fait quelques années, là, à Grenoble, donc pas très loin, en France, ben la dame, la personne qui a fait à manger, en fait, elle n'a jamais fait assez, c'était dans une église. Et au fur et à mesure qu'elle coupait le rôti, il ne diminuait pas. Et tout le monde a mangé du rôti. Génial, hein? Voilà. Après, Jésus, c'est pas son truc de faire des miracles pour épater la galerie. Il y en a à son époque, ils voulaient voir les miracles de Jésus. Ils voulaient voir Donc voilà, attiré par le surnaturel comme ça, allez, on va voir Jésus pour voir des miracles. Puis en fait, à ce moment-là, Jésus dit non, vous n'aurez aucun miracle. Ce n'est pas la bonne motivation, quoi. Il dit ça, voilà. Ou il y aura un miracle, puis ils ne comprennent pas. Ils disent, ça va être comme Jonas, 3 jours et 3 nuits. Enfin, ils ne comprennent pas. Ils voulaient voir le spectaculaire, voilà. Le spectaculaire. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect spectaculaire dans les miracles. Ben, voilà, c'est quand même assez surprenant. Il y a 5 résurrections qui sont nommées, autre catégorie. Par exemple, la fille d'un chef de synagogue, elle décède, c'est une jeune fille, et Jésus va la voir et il la ressuscite. Elle ouvre les yeux, elle se demande ce qui se passe et elle reçoit un repas. Donnez-lui à manger. Donc on pense qu'avant sa mort, elle était sans réserve, qu'elle est décédée, voilà, plus alimentée, ou voilà, sans réserve. Puis la première chose que Jésus dit, c'est donnez-lui à manger. C'est marrant, hein, pratique comme ça, Jésus, hein. Il n'est pas en train de se dire, ah, j'ai quand même fait un miracle de résurrection, elle est revenue à la vie. Non, il dit, non, ouais, voilà, c'est bien qu'elle soit nourrie. Il y a aussi un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Luc chapitre 7. En fait, il y a un cortège funèbre qui est là, vous imaginez, le corbillard, les gens qui suivent le corbillard, un peu comme ça, plus ou moins, à l'époque. Et puis juste derrière le corbillard, en fait, c'est une maman qui a perdu son fils. Voilà, elle est en pleurs, c'était son fils unique. Donc la seule source de revenus de l'époque, c'était lui, et puis il décède. Elle n'a plus rien, quoi, cette femme, elle n'a que ses yeux pour pleurer, comme on dit. Jésus, il passe par là, il pose sa main sur l'épaule, j'imagine un peu comme ça, puis il lui dit « ne pleure plus, ne pleure pas ». Et cette parole qui n'est pas une parole méprisante ou hautaine en disant bon, « arrête de pleurer, c'est bon, tu ne vas pas le refaire revenir », non, elle est pleine de compassion, pleine de tendresse, parce que Jésus sait ce qu'il va faire. Il va vers le mort. Il a dû faire arrêter le cortège. Il dit, calmez-vous. Il va vers les morts et puis il lui dit, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Lève-toi. Et c'est ce qu'il fait. Il lui redonne vie. Miracle de résurrection. Il y a aussi Lazare, par exemple. Il y a des miracles. Ensuite, 4 miracles qu'on appelle de communication, comme la transfiguration. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Il y a aussi un miracle de jugement. Il y en a 2. Il y en a un notamment qui est sur un figuier, que personne ne mange de tes fruits. Tu n'as pas voulu me nourrir, Jésus. En fait, il y a une leçon pour les disciples et pour nous. Mais il y a un miracle de jugement qui est là. C'est quand même un miracle, quoi, de faire quelque chose qui est contre nature. Voilà. Et puis dans les Actes des Apôtres, Jésus fait un miracle qui est particulier. C'est pour Saul de Tars, dans Actes 9, verset 8. Saul devient aveugle. Et ce n'est pas un esprit mauvais qui l'a rendu aveugle, c'est Jésus. Il l'a rendu aveugle. Tu crois voir, mais je te ferme les yeux. Il faut que tu me voies, moi. Quelque part, il dit ça, Jésus. Voilà, acte 9, verset 8. 104 miracles, donc, mentionnés. Jésus est celui dans les Écritures qui a fait le plus de miracles. Un petit peu Pierre, un petit peu les 12 disciples, un petit peu Élisée, un petit peu Élie, un petit peu Aaron, Paul aussi, Moïse aussi, on en a fait, Josué. Voilà, puis Dieu, c'est attribué à Dieu directement. Mais Jésus a plus de miracles que Dieu mentionnés. Jésus est Dieu, mais il y a plus mentionné de miracles parce qu'on suit Jésus dans les 3 ans de son ministère, comme ça. Et il y a tous ceux que Jésus a fait et qui ne sont pas mentionnés. C'est génial, hein ? Et on va voir ça, juste un exemple de pourquoi il fait des miracles tout à l'heure. Je continue dans... Ça, c'est mon intro, mais mon intro, j'ai l'impression qu'elle est plus longue que le reste. Je vais juste poser les choses de l'intro. Dans les guérisons de Jésus, pratiquement à chaque fois, c'est précédé de quelque chose. L'annonce de la bonne nouvelle, presque à chaque fois. Jésus va de ville en ville, de village en village. Il annonce ou il enseigne la bonne nouvelle. Et après, les malades, il les guérit, les démonisés, il les délivre. Où voilà, il fait il fait les œuvres du Père Céleste. Mais c'est précédé avant de la bonne nouvelle. Il faut quand même se dire qu'on est en Israël, où quasi tout le monde croit en Dieu, puis il leur annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Pourtant, tout le monde croit en Dieu, ou quasi presque tout le monde. Peut-être les seuls qui ne croyaient pas en Dieu, c'était les Romains ou quelques étrangers qui étaient là. Mais Israël est imprégné de la croyance en Dieu, de la foi. Le judaïsme est tellement présent. Puis Jésus, il annonce une bonne nouvelle Il est en train de leur dire, ok, c'est bien gentil ce que vous avez cru jusqu'à présent, mais moi je vous annonce la bonne nouvelle. Il le dit et il le démontre. Il le dit et il le démontre. Si tu annonces la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, tu le dis et tu le démontres. Comme Jésus, parce qu'on est appelé à faire ses œuvres, tout simplement. Quand est-ce que tu as ressuscité quelqu'un la dernière fois? Il y a des résurrections aujourd'hui. Bon, ça, c'est le truc le plus gros. Hein. Mais il y a tous ces miracles que Jésus fait et qu'on ne se rend peut-être pas très compte. Donc, c'est précédé. Le miracle est précédé de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De temps en temps, on ne sait pas trop, enfin, dans les miracles, c'est mentionné aussi délivrance. Il fait des délivrances, puis le texte biblique dit, en fait, c'est des guérisons. Donc voilà, c'est pas trop, mais c'est, en tout cas, les gens sont bénis, ils sont guéris, ils sont délivrés. Finalement, peu importe si c'est un démon qui part, c'est une maladie qui part, c'est pas le plus important. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que jamais Jésus n'est démuni face aux personnes malades qui viennent le voir ou qu'on lui apporte. Il n'est jamais démuni. Ce qui me fait dire ce soir, c'est que quand tu annonces et qu'on nous annonçons la bonne nouvelle, la puissance de Jésus, elle est toujours là et elle est suffisante. Elle ne fera pas défaut. Elle ne fera pas défaut si on vient à Jésus, bien sûr. Encore faut-il venir à Jésus, bien sûr. Puissance de Dieu. De temps en temps, c'est marqué, une force sortait de lui et les guérissait tous. Une puissance était là. En tout cas, c'était constatable. Est-ce qu'on voyait la force sortir? On en voyait les effets. Je ne sais pas si on voit une force qui sort de Jésus. Certaines personnes, quand elles prient au nom de Jésus, voient des choses. Et là, en tout cas, au temps du Seigneur Jésus, la puissance sortait et guérissait. Certains ont arraché leur guérison aussi, par la foi. Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Quelle foi, hein? Je ne sais pas si vous en êtes ce soir, si vous êtes malade de quelque chose. Faites comme cette femme qui était atteinte d'une hémorragie depuis longtemps. Elle était prête dans sa foi. Elle est venue à Jésus. Mais si vous êtes là en train de dire, oh, ben, je ne sais pas si je serai béni. Bon, allez, on va quand même essayer, on verra bien. Moi, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Ce n'est pas ça qui va libérer la puissance de Dieu. Des fois, j'étais, peut-être vous aussi, dans des rencontres comme ça, chrétiennes. Il y avait une telle foi, un tel état d'esprit de foi et de envers Dieu, que la puissance de Dieu était libérée, quoi. Vraiment sur tous et plusieurs en même temps. Il y avait un esprit de foi qui était là. On croyait en Jésus. Et c'est une des caractéristiques aussi qui libère la puissance du Seigneur Jésus, parce qu'il faut la libérer. Eh bien, certaines personnes désirent entendre Jésus. Je ne mets pas les références, mais elles existent. Les personnes sont là et elles désirent entendre Jésus et aussi recevoir la prière de guérison du Seigneur Jésus. Mais elles veulent l'entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Dis-nous des choses. Dis-nous. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Il est mentionné dans Matthieu 8 que les esprits partent par sa parole. Donc Jésus devait dire quelque chose aux esprits. On a des exemples. Hein. Tais-toi et sors. Et ça suffit pour que l'esprit parte. Direct. Alléluia. Hein. Et quand un esprit part, c'est la vraie libération. Il y a une paix qui est là, extraordinaire. Avant, il y avait un démon qui tourmentait. Des fois, c'est un petit démon, petit, dans le sens de... Il fait un petit truc, mais c'est douloureux, c'est pénible pour la personne. Elle lutte avec quelque chose, et Jésus la libère. Dans les Écritures, Jésus, quand il manifeste ses miracles, il y a souvent une parole qui est prononcée, donc « tais-toi et sors » quand il parle au démon, par exemple. Mais il y a une économie de mots aussi. Il ne s'étale pas. Et il donne en même temps, c'est une parole créatrice et une parole d'autorité. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse chapitre 1, il a dit, une phrase que beaucoup de gens connaissent, « que la lumière soit ». Que la lumière soit. Quatre mots. Bien, Jésus, c'est un peu pareil. Il fait une économie de mots, mais ça suffit pour que le miracle se fasse. Peut-être qu'il en a dit plus, mais en tout cas, les Écritures nous rapportent ça. Il donne comme des slogans, je ne sais pas si c'est le bon mot, créateur, je le veux, sois pur. Il dit ça à un lépreux, quelqu'un qui est très malade, qui aurait une maladie inguérissable, comment on dit, il y a un autre, incurable, merci. Il lui dit, je le veux, sois pur, je le veux, sois guéri. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? que je recouvre la vue. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Sois guéri. Parole créatrice. À Lazare, il lui dit deux mots. Sors. Lazare, sors. Il l'appelle. Lazare, sors de ton tombeau. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, Jésus dit la même chose. Tu mets ton nom ou le nom de quelqu'un que tu connais, sors. Sors de tes liens, sors à la vie éternelle. Luc 8, 54, il dit, « Mon enfant, lève-toi. » Il y a un moment donné, l'apôtre Pierre, il est dans une région, là, je ne sais plus si c'est Jaffa, je crois que c'est par là-bas, et puis quelques chrétiens qui étaient là-bas à l'époque ont entendu que Pierre n'était pas loin. Et il se trouve que une personne était paralysée et une autre venait de décéder, Dorcas, Tabitha, dans Actes chapitre 8, je crois, par là autour. Et Pierre est par là-bas, les chrétiens font venir Pierre et il rentre dans la maison, on le fait monter à la chambre mortuaire qui est au premier étage, et puis Tabitha, là, Dorcas, inerte, elle est morte. On ne sait pas de quoi elle est morte, mais elle est décédée. Et tout autour, il y a les veuves, les pleureuses, ça pleure, ça crie, parce qu'elle est décédée. Pierre arrive là au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. C'est important avant un miracle, avant de prier, de savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il n'arrive pas à entendre, il y a trop de bruit, il fait sortir tout le monde. Et le texte dit, il se met à genoux, et au bout d'un moment, donc il a entendu Dieu qui parlait, au bout d'un moment, il lui dit, lève-toi. Je me demande s'il ne la prend pas par la main. Lève-toi. La vie, le cœur se met à battre. Elle ressuscite. Et peut-être qu'elle va reprendre son travail. Elle avait un atelier de couture. Voilà. Pierre fait la même chose que Jésus. Il ressuscite. Il fait les mêmes œuvres. La puissance de Dieu se manifeste. Jésus a assez de pouvoir pour ressusciter les morts. Une parole créatrice, et c'est toi qui peux la donner, cette parole. Toi, tu peux la donner. Vous savez, il y a les paroles qu'on dit tous les jours. Ah, demain, il fera moins chaud, demain, il fera froid, etc. Ça, ce n'est pas des paroles créatrices. On constate, on discute entre nous. Mais quand il y a la parole créatrice qui fait les choses dans les Écritures, elle peut modifier des événements, des circonstances, la météo. Elle peut faire quelque chose parce que Dieu se lie à notre parole. Et il veut utiliser ta parole. Moi, quand j'ai compris ça, ça me fiche vraiment la crainte de Dieu, quoi. Oh, Seigneur, aide-moi à dire tes paroles. Il y a besoin des paroles de Jésus aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de ton scepticisme, il n'y a pas besoin de ton incrédulité, mais la réponse, c'est Jésus. Et si l'Église n'est pas porteuse de la réponse de Dieu pour ce monde, ça va aller de pire en pire. Et nous, il nous mandate pour dire ses paroles. Frères et sœurs, il te mandate pour dire ces paroles, pour que ce monde change, pour que les vies soient sauvées, les guérisons du Seigneur soient là. Est-ce qu'on pense que parce qu'on a un super hôpital dans le canton, un des meilleurs de Suisse et du monde, qu'on n'a pas besoin de prier pour les malades? Mais il y a tellement de malades à Genève, il y en a plus qu'ailleurs. On a les meilleures assurances du monde, il y a les meilleurs hôpitaux, les meilleurs soins, les meilleurs médecins, enfin en Suisse, et voilà. Dieu nous a bénis de ce côté-là. Puis il y a des malades en grand nombre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens n'écrivent pas à Dieu en disant « Mais sauve-nous, Dieu, on n'y arrive pas sans toi. » On se repose un peu, hein? Peut-être parce qu'on n'est pas encore à notre place à ce niveau-là. Le Seigneur a besoin de toi, disciple, qui proclame la parole créatrice. Bien sûr qu'on n'en est pas digne. Bien sûr qu'on n'est pas capable de créer la guérison, etc., la bénédiction de Dieu. Mais il veut néanmoins nous utiliser, conscient de notre faiblesse à nous. Les prophètes, très conscients de leur faiblesse, Ésaïe, Jérémie, reçoivent de Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles créatrices dans ta bouche. Et vous savez quoi? Ces paroles, on les a encore aujourd'hui. Et ces paroles qui sont écrites, lorsqu'on les prononce au nom du Seigneur, elles deviennent créatrices avec l'aide de l'Esprit Saint, si on a bien entendu la voix du Saint-Esprit. Et ils veulent nous utiliser, imparfaits que nous sommes, faible que nous sommes. Si je vous dis toutes mes faiblesses, on est encore là dans X temps. Mais il m'a appelé et j'ai eu le bonheur, je le sais après coup, de dire oui et m'a pris au mot. Amen. Gloire à Dieu. Je termine avec trois exemples que je ne considérais pas avant comme des miracles, mais que je vois aujourd'hui comme des miracles qui me sont arrivés. Juste avant, donc, je vous ai promis, je lis Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, les 12 proches, les apôtres de l'agneau, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, donc c'est Marie-Madeleine, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, donc son trésorier, quoi, du roi Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Voilà Jésus, il fait toujours beau en Israël, il marche, il va de ville en ville, de village en village, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les 12 l'accompagnaient, on voit les 12 qui sont avec lui, donc ils sont 13, et puis il y a quelques femmes qui suivent, qui sponsorisent son ministère. Elles ont été guéries d'esprits mauvais, de maladies. Puis le texte précise, Marie-Madeleine, elle avait vécu une délivrance, ou 7 délivrances, en tout cas 7 démons étaient partis d'elle. Et puis il y a Jeanne, qui était apparemment, enfin en tout cas son mari était connu. Suzanne, on n'a pas d'autre chose sur son nom. Et beaucoup d'autres qui le servaient et l'assistaient de leur bien. On se pose toujours la question comment Jésus y vivait. Il y avait des gens qui avaient à cœur de soutenir son ministère, qui le bénissaient. Et puis voilà, peut-être que moi je pense que Jeanne, qui était la femme de l'intendant d'Hérode, ils avaient un bon salaire, elle n'avait pas besoin de travailler. Et bien voilà, une partie en reconnaissance allait à Jésus de ses finances, assister de leurs biens. Ce que je veux dire ce soir, c'est que Jésus, il fait toujours des miracles. Amen. Et il entend bien en faire encore d'autres. Il y a trois choses, toutes simples, qui me sont arrivées, que je peux analyser avec le temps comme des miracles. Une première chose que je vous dis, en 2014, nous étions avec plusieurs en Oklahoma, à Tulsa. Je crois que c'était dans cette ville-là, j'ai un petit doute maintenant. On est allé un dimanche matin dans une église, on a suivi le culte, c'était une très chouette église, joyeuse, dynamique, un pasteur jeune, grande église comme ils savent en faire là-bas. Et ils avaient une école chrétienne attenante au bâtiment. Grande école, enfin tout est grand là-bas de toute façon. Voilà. Une école chrétienne, il y avait je crois 700 élèves dans mon souvenir, hein, il me semble, à peu près. Mais normal quoi pour là-bas, c'est voilà, classique, il y en a plusieurs dans la ville. Comme ça. Et puis on a assisté au culte, on a été bénis. Et puis, Anne avait pris rendez-vous avec le directeur de l'école chrétienne parce qu'on voulait voir comment l'école fonctionnait. On était plusieurs. Je crois que Catherine était là. Elle est où, Catherine ? Elle est là. Avec nous, elle nous a traduit tout ça. Et il s'est trouvé, je crois que c'était avant la visite de l'école, des bâtiments et la discussion avec le directeur, qu'on est allé dans la librairie qui était attenante à l'église, comme ça. Et puis le pasteur, celui qu'on avait entendu prêcher la veille ou quelques jours avant, il est passé par là, il nous a vus, il s'est arrêté, et puis il nous a salués et il nous a bénis. Il nous a bénis. Et en fait, qu'est-ce qui est miraculeux là-dedans ? Vous allez me dire, mais il n'y a rien de miraculeux, ce n'est pas extraordinaire ce qu'il nous dit. En fait, ce qui a été pour moi miraculeux, ce n'est pas tellement qu'on ait rencontré le pasteur, même si on était très heureux de le faire, il nous a bénis, on a prié ensemble là, dans les couloirs, dans le hall d'entrée, c'était vraiment super. Mais en fait, cette rencontre, elle est restée pour moi comme un modèle. L'école chrétienne est restée comme un modèle, l'église est restée comme un modèle, et ce jeune pasteur est resté comme un modèle. Et c'est resté dans mon esprit. Donc j'attribue ça à un miracle où Dieu a fait une empreinte en moi. C'était en 2014, ça commence un petit peu à dater. Voilà. Or, ce n'était pas des paralytiques qui sont levés, des aveugles qui voyaient comme jamais, etc. Mais il y a eu une rencontre qui était faite là. Deuxième chose que je mets dans ce... Donc, vous avez compris que les miracles dans les Écritures, ce n'est pas que des guérisons, mais il y a plein d'autres choses. En 1988, ça date, j'étais jeune chrétien. Un ami m'invite dans son église, en Haute-Savoie. Il m'a dit, viens, on a un invité qui est là ce soir. C'est quelqu'un qui est un pasteur indien. Et puis voilà, il se trouve qu'il fait un voyage en ce moment. Et je t'invite, c'était en semaine. Petite communauté, petite église qui était là. Et ce pasteur, je l'entends prêcher. C'était tellement fluide ce qu'il disait, c'était tellement simple. Il prêchait en anglais, c'était traduit. Et puis à un moment donné, il y a le temps qu'on appelle le ministère. Il s'approche de tous ceux qui sont assis. Je ne sais plus combien on était. Et puis il pose les mains sur chacun. Et au moment où il pose ses mains sur moi, parce que j'étais vraiment dans le Seigneur comme ça, j'ai senti une chaleur, sa présence, la présence de Jésus qui était là très très forte. Son message était très simple, ce qu'il avait dit. C'était Benjamin Salviratnam, tu vois qui c'est. Certains se souviennent peut-être. Je pense qu'il est décédé maintenant, le papa, hein, il me semble. Voilà. Et pourtant, c'était ce qui m'a frappé dans cette rencontre. Ben voilà, j'ai senti la présence de Dieu, son message était tout simple, mais il y avait une grâce qui m'a été donnée, là, dans cet endroit, tout simple, tout discret. La présence de Dieu était aussi forte que si elle pouvait l'être dans des grands rassemblements, mais la présence de Dieu, puis ça a parlé à mon cœur, ça m'a touché. Et cet événement qui est marquant, qui est là, il est gravé dans mon esprit. Et qu'est-ce que je retiens de ces lieux-là? C'est que la présence de Dieu, elle peut se manifester dans des petites communautés comme dans des grandes. Et ce pasteur-là, c'est un évangéliste, il a prêché à des foules très très nombreuses. Il a été un instrument de Dieu très puissant et il a osé venir dans des petites communautés, quelques croyants qui étaient là, parce qu'il avait un cœur de serviteur. Et moi je retiens cet enseignement-là, un cœur de serviteur, voilà, oser être là où Dieu nous veut, se débarrasser du calcul, de dire « waouh, il y a une foule, ça, Dieu les bénit tellement, cette communauté chrétienne ». Non, Dieu est autant là dans les petites communautés que dans les grandes. Voilà. Amen. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a été marquante. Et puis un jour, en 2012, une parole prophétique m'est donnée. On était loin d'ici. On avait... je crois que c'était deux personnes. Donc j'étais avec mon deuxième fils Emmanuel et ma fille Audrey, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2012. On était là, deux personnes s'approchent de nous. Une d'origine asiatique me donne une parole prophétique. Elle ne me connaissait pas du tout. Donc c'est-à-dire, parole prophétique, c'est une parole de Dieu. Voilà, elle donne quelque chose et elle me décrit des situations, etc., qu'elle ne pouvait pas connaître, une précision qui était là, des choses que je savais déjà en moi, à l'intérieur, que Dieu m'avait déjà informé. Donc elle confirmait ça, etc. Elle donne une parole pour Emmanuel, pour Audrey aussi. On a noté comme ça. Très, très simplement, très discrètement, cette parole qu'elle m'a donnée, un an et demi après, donc peu de temps après finalement, on est dans la tourmente. On est dans cette période-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on faisait la une des médias pour une raison particulière. Et cette parole qu'elle m'a donnée, c'est celle-là qui m'a soutenu à ce moment-là. Je savais que cette parole prophétique était une préparation à la souffrance qui allait venir, comme ça, l'humiliation qu'on allait venir. Comme Dieu est bon, comme Dieu est bon. Aujourd'hui, Dieu peut te donner une parole qui va te soutenir peut-être dans 10 ou 15 ans et qui va être la parole qui te soutiendra. Si ça, ce n'est pas du miracle, en tout cas pour moi, c'en est. C'est du miracle. Encore une fois, ce n'est pas une résurrection, ce n'est pas un truc qui en met plein la vue, mais c'est du cœur à cœur. Parce que je crois que le miracle, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il aime faire des miracles parce qu'il s'intéresse à toi et à moi du un à un. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas en mettre, des fois que ça n'en met pas plein la vue. Il fait comme ça, le Seigneur. Il se manifeste avec une gloire très évidente. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, ceux qui veulent recevoir personnellement un attouchement du Seigneur, je m'engage un peu, hein, mais je le fais en son nom, vous pouvez vous avancer. On va prier juste avant, si Valin peut mettre une musique calme. Ceux qui voudraient recevoir la prière ce soir, Jésus est là. Je suis d'accord, je serais heureux de prier pour vous, dans ma faiblesse et mes limitations. Mais le Seigneur, je crois, veut bénir plusieurs. Comme vous êtes, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire telle ou telle chose, mais on est là pour simplement être un canal du Seigneur Jésus. Moi, j'aimerais vous inviter à tous vous lever, et ceux qui veulent, donc à votre place, on rentre dans la présence de Dieu plus spécifiquement. Ceux qui souhaitent, vous avancez tout simplement, vous venez à Jésus, vous venez dans une démarche de confiance et de foi qui veut vous faire du bien. Merci notre Père parce que tu es celui qui donne ton esprit sans mesure, sans calcul. Merci parce que tu es le Dieu des miracles et que tu n'as pas fini d'en faire. Et je te loue, Seigneur, pour toutes les fois, dans des petites choses, tu as manifesté ton miracle. Toutes les fois, tu as fait quelque chose qui était aussi, aussi comme on l'entendait un petit peu tout à l'heure dans une prière, aussi, tu sais tous les cheveux qu'on a sur la tête et tu connais leur nombre. Nous, ça nous échappe, mais toi, tu le sais. Et pas un de ces cheveux ne tombe, Seigneur, sans que tu ne le remarques. Et là aussi, Seigneur, ton miraculeux, il embrasse tout. Il a la vision générale et je te remercie pour ça. Seigneur, fais-nous rentrer encore davantage au nom de Jésus dans ton miraculeux, par la prière, par des vies consacrées, des temps qui se mettent à part, mais aussi par la simplicité de la foi. La foi toute simple, Seigneur, rends-nous simples comme des enfants, avec une foi pleine et entière devant toi. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit ce soir qui est là, qu'il tombe sur nos vies, qu'il descende et qu'il agisse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Voilà, ceux qui voudraient simplement s'avancer, vous pouvez venir au Seigneur Jésus. On va poser la main sur vous si vous êtes d'accord. Et comme le signe d'imposition des mains, c'est un signe biblique de transmission de Saint-Esprit. Venez un peu plus devant, comme il y a plusieurs qui s'avancent. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense que c'est bien de ceux de l'équipe pastorale ou des soins pastoraux qui ne souhaitent pas la prière. Il va falloir être disponible pour prier aussi. Donc je vous invite, si possible, par deux. Et les membres de l'équipe pastorale et les membres des soins pastoraux pour vous avancer, vous prier. Puis je vais aussi me joindre à vous. Ouais, super. Donc il y a Michel, Evelyne, Gilles est là aussi. Voilà, les autres de l'équipe qui voudraient la prière, bien sûr, vous avez la possibilité de recevoir la prière. Merci Saint-Esprit. Donc quand on pose les mains sur vous comme ça, regardez au Seigneur Jésus, vous ne regardez pas à nous, on n'est pas des magiciens ni des gens qui avons quelques pouvoirs, mais on prie au nom de Jésus. Et peut-être que Dieu nous donnera une parole pour vous, ben, accueillez-la, recevez-la tout simplement. Et puis laissez le Seigneur Jésus vous parler, vous encourager. Et puis en même temps, laissez le Saint-Esprit qui vient sur vous. Là, il y a une transmission par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit est là, puis il va agir. Et puis que vous ressentez des choses ou pas, peu importe, mais il va mettre sa bénédiction sur vous. Amen. Donc allez-y, l'équipe pastorale, enfin les personnes qui vont prier. Priez.
Merci pour ce magnifique morceau de piano. Je suis sûr que c'est toi qui jouais, Pierre-Alain, Yves-Alain. Non, je me suis trompé. Non, c'était une plaisanterie. Voilà, c'était un temps magnifique où le Seigneur est venu nous visiter d'une manière particulière, et ça c'est bon. Il le fait à la maison, il le fait dans la nature, il le fait partout. Dieu n'est pas limité par les lieux où il nous visite, même dans le ventre d'un poisson, nous dit la parole de Dieu. Voilà, nous allons maintenant passer un temps de Sainte-Cène. Est-ce que quelqu'un m'aiderait juste à approcher la table ? Et puis je vais lire un passage, merci beaucoup, tiré du livre des Actes, 1 Corinthiens, chapitre 11, un passage que j'aime bien, que l'apôtre Paul nous a transmis de la part du Seigneur. Merci beaucoup, on peut découvrir juste les aliments. Voici ce qu'il est dit en Corinthiens 11, verset 23. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, chacune s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie. Merci beaucoup parce que tu as partagé cette scène avec tes disciples avant de mourir. Et nous voulons nous rappeler ces instants avec émotion. Merci pour ce sang versé, merci pour ton corps livré. Seigneur, nous allons participer à la scène et nous nous réjouissons parce qu'un jour nous allons la partager avec toi dans le ciel. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Voilà, donc la table est dressée, vous pourrez vous approcher, prendre ça c'est sans alcool, hein, et puis l'autre est avec alcool et bien sûr du pain. Et puis les petits godets, vous pourrez les mettre tout simplement dans cette corbeille. Voilà, que Dieu vous bénisse, approchez-vous, vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur.
Need a place I can run and fall into. Till I'm every